Chapitre 3. Dans la belle saison, ils allaient tous les dimanches à la messe à l'église des Pamplemousses, dont vous voyez le clocher là-bas dans la plaine. Il y venait des habitants riches en palanquin, qui s'empressèrent plusieurs fois de faire la connaissance de ces familles si unies et de les inviter à des parties de plaisir. Mais elles repoussèrent toujours leurs offres avec honnêteté et respect, persuadées que les gens puissants ne recherchent les faibles que pour avoir des complaisants, et qu'on ne peut être complaisant qu'en flattant les passions d'autrui, bonnes et mauvaises. D'un autre côté, elles n'évitaient pas avec moins de soin l'accointance des petits habitants pour l'ordinaire jaloux, médisant et grossier. Elles passèrent d'abord auprès des uns pour timides et auprès des autres pour fiers, mais leur conduite réservée était accompagnée de marques de politesse si obligeantes, surtout envers les misérables, qu'elles acquirent insensiblement le respect des riches et la confiance des pauvres. Après la messe, on venait souvent les requérir de quelque bon office. C'était une personne affligée qui leur demandait des conseils, ou un enfant qui les priait de passer chez sa mère malade dans un des quartiers voisins. Elle portait toujours avec elle quelques recettes utiles aux maladies ordinaires aux habitants. Elles y joignaient la bonne grâce qui donne tant de prix aux petits services. Elle réussissait surtout à bannir les peines de l'esprit, si intolérables dans la solitude et dans un corps infirme. Madame de la Tour parlait avec tant de confiance de la divinité que le malade, en l'écoutant, la croyait présente. Virginie revenait bien souvent de là, les yeux humides de larmes, mais le cœur rempli de joie, car elle avait eu l'occasion de faire du bien. C'était elle qui préparait d'avance des remèdes nécessaires aux malades et qui les leur présentait avec une grâce ineffable. Après ces visites d'humanité, elles prolongeaient quelquefois leur chemin par la vallée de la Montagne Longue jusque chez moi, où je les attendais à dîner sur les bords de la petite rivière qui coule dans mon voisinage. Je me procurais pour ces occasions quelques bouteilles de vin vieux, afin d'augmenter la gaieté de mes repas indiens par ces douces et cordiales productions de l'Europe. D'autres fois, nous nous donnions rendez-vous sur les bords de la mer, à l'embouchure de quelques autres petites rivières, qui ne sont guère ici que de grands ruisseaux. Nous y apportions de l'habitation, des provisions végétales que nous joignions à celles que la mer nous fournissait en abondance. Nous pêchions sur ces rivages des cabots, des polypes, des rougets, des langoustes, des chevrettes, des crabes, des oursins, des huîtres, et des coquillages de toute espèce. Les sites les plus terribles nous procuraient souvent les plaisirs les plus tranquilles. Quelquefois, assis sur un rocher à l'ombre d'un veloutier, nous voyions les flots du large venir se briser à nos pieds avec un horrible fracas. Paul, qui nageait d'ailleurs comme un poisson, s'avançait quelquefois sur les récifs au devant des lames, puis, à leur approche, ils fuyaient sur le rivage devant leurs grandes volutes écumeuses et mugissantes qui le poursuivaient bien avant sur la grève. Mais Virginie, à cette vue, jetait des cris perçants et disait que ces jeux-là lui faisaient grand-peur. Nos repas étaient suivis des chants et des danses de ces deux jeunes gens. Virginie chantait le bonheur de la vie champêtre, et les malheurs des gens de mer que l'avarice porte à naviguer sur un élément furieux, plutôt que de cultiver la terre qui donne paisiblement tant de bien. Quelquefois, à la manière des Noirs, elle exécutait avec Paul une pantomime. La pantomime est le premier langage de l'homme. Elle est connue de toutes les nations. Elle est si naturelle et si expressive que les enfants des Blancs ne tardent pas à l'apprendre dès qu'ils ont vu ceux des Noirs s'y exercer. Virginie, se rappelant dans les lectures que lui faisait sa mère, les histoires qui l'avaient le plus touchée, en rendait les principaux événements avec beaucoup de naïveté. Tantôt, au son du tam-tam de domingue, elle se présentait sur la pelouse, portant une cruche sur sa tête. Elle s'avançait avec timidité à la source d'une fontaine voisine pour y puiser de l'eau. Domingue et Marie, représentant les bergers de Madian, lui en défendaient l'approche et feignaient de la repousser. Paul accourait à son secours, battait les bergers, remplissait la cruche de Virginie, et en la lui posant sur la tête, il lui mettait en même temps une couronne de fleurs rouges de pervenche qui relevait la blancheur de son teint. Alors, me prêtant à leur jeu, je me chargeais du personnage de Raguel et j'accordais à Paul ma fille Séphora en mariage. Une autre fois, elle représentait l'infortunée Ruth qui retourne veuve et pauvre dans son pays où elle se trouve étrangère après une longue absence. Domingue et Marie contrefaisaient les moissonneurs et Virginie feignait de glaner çà et là sur leurs parts quelques épis de blé. Paul, imitant la gravité d'un patriarche, l'interrogeait. Elle répondait en tremblant à ses questions. Bientôt, ému de pitié, il accordait l'hospitalité à l'innocence et un asile à l'infortune. Il remplissait le tablier de Virginie de toutes sortes de provisions et l'amenait devant nous, comme devant les anciens de la ville, en déclarant qu'il la prenait en mariage malgré son indigence. Madame de la Tour, à cette scène, venant à se rappeler l'abandon où l'avait laissé ses propres parents, son veuvage, la bonne réception que lui avait faite Marguerite, suivie maintenant de l'espoir d'un mariage heureux entre leurs enfants, ne pouvait s'empêcher de pleurer. Et ce souvenir confus de maux et de biens nous faisait verser à tous des larmes de douleur et de joie. Ces drames étaient rendus avec tant de vérité qu'on se croyait transporté dans les champs de la Syrie ou de la Palestine. Nous ne manquions point de décoration, d'illumination et d'orchestre convenable à ce spectacle. Le lieu de la scène était pour l'ordinaire un carrefour de forêt, dont les percées formaient autour de nous plusieurs arcades de feuillage. Nous étions à leur centre, abrités de la chaleur pendant toute la journée, mais quand le soleil était descendu à l'horizon, ses rayons, brisés par les troncs des arbres, divergeaient dans les ombres de la forêt en longues gerbes lumineuses qui produisaient le plus majestueux effet. Quelquefois, son disque tout entier paraissait à l'extrémité d'une avenue et la rendait tout étincelante de lumière. Le feuillage des arbres, éclairés en dessous de ses rayons safranés, brillait des feux de la topaze et de l'émeraude. Leurs troncs mousseux et bruns paraissaient changés en colonnes de bronze antique. Et les oiseaux, déjà retirés en silence sous la sombre feuillée pour y passer la nuit, surpris de revoir une seconde aurore, saluait tous à la fois l'astre du jour parmi les mille chansons. La nuit nous surprenait bien souvent dans ces fêtes champêtres, mais la pureté de l'air et la douceur du climat nous permettaient de dormir sous un ajoupa au milieu des bois, sans craindre d'ailleurs les voleurs ni de près ni de loin. Chacun, le lendemain, retournait dans sa case et la retrouvait dans l'état où il l'avait laissée. Il y avait alors tant de bonne foi et de simplicité dans cette île sans commerce que les portes de beaucoup de maisons ne fermaient point à clé et qu'une serrure était un objet de curiosité pour plusieurs créoles. Mais il y avait dans l'année des jours qui étaient pour Paul et Virginie des jours de plus grande réjouissance, c'étaient les fêtes de leur mère. Virginie ne manquait pas la veille de pétrir et de cuire des gâteaux de farine de froment qu'elle envoyait à de pauvres familles de blancs nés dans l'île qui n'avaient jamais mangé de pain d'Europe et qui, sans aucun secours de noirs réduits à vivre de manioc au milieu des bois, n'avait pour supporter la pauvreté ni la stupidité qui accompagne l'esclavage, ni le courage qui vient de l'éducation. Ces gâteaux étaient les seuls présents que Virginie put faire de l'aisance de l'habitation. Mais elle y joignait une bonne grâce qui leur donnait un grand prix. D'abord, c'était Paul qui était chargé de les porter lui-même à ses familles, et elle s'engageait, en les recevant, de venir le lendemain passer la journée chez Madame de la Tour et Marguerite. On voyait alors arriver une mère de famille avec deux ou trois misérables filles, jaunes, maigres et si timides qu'elles n'osaient lever les yeux. Virginie les mettait bientôt à leur aise, elle leur servait des rafraîchissements dont elle relevait la bonté par quelques circonstances particulières qui en augmentaient, selon elle, l'agrément. Cette liqueur avait été préparée par Marguerite, cette autre par sa mère. Son frère avait cueilli lui-même ce fruit au haut d'un arbre. Elle engageait Paul à les faire danser. Elle ne les quittait point qu'elle ne les vit contentes et satisfaites. Elle voulait qu'elle fût joyeuse de la joie de sa famille. On ne fait son bonheur, disait-elle, qu'en s'occupant de celui des autres. Quand elle s'en retournait, elle les engageait d'emporter ce qui paraissait leur avoir fait plaisir, couvrant la nécessité d'agréer ses présents du prétexte de leur nouveauté ou de leur singularité. Si elle remarquait trop de délabrement dans leurs habits, elle choisissait, avec l'agrément de sa mère, quelques-uns des siens, et elle chargeait Paul d'aller secrètement les déposer à la porte de leur case. Ainsi, elle faisait le bien, à l'exemple de la divinité, cachant la bienfaitrice et montrant le bienfait. Vous autres, Européens, dont l'esprit se remplit de l'enfance de tant de préjugés contraires au bonheur, vous ne pouvez concevoir que la nature puisse donner tant de lumière et tant de plaisir. Votre âme, circonscrite dans une petite sphère de connaissances humaines, atteint bientôt le terme de ses jouissances artificielles. Mais la nature et le cœur sont inépuisables. Paul et Virginie n'avaient ni horloge, ni almanach, ni livre de chronologie, d'histoire et de philosophie. Les périodes de leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils connaissaient les heures du jour par l'ombre des arbres, les saisons par les temps où ils donnent leurs fleurs ou leurs fruits, et les années par le nombre de leurs récoltes, ces douces images répandaient les plus grands charmes dans leur conversation. Et il est temps de dîner, disait Virginie à la famille, les ombres des bananiers sont à leurs pieds. Ou bien, oh, la nuit s'approche, les tamarins ferment leurs feuilles. Quand viendrez-vous nous voir? Lui disaient quelques amis du voisinage. Aux cannes de sucre, répondait Virginie. Votre visite nous sera encore plus douce et plus agréable, reprenaient ces jeunes filles. Quand on interrogeait sur son âge et sur celui de Paul, ah, mon frère, disait-elle, est de l'âge du grand cocotier de la fontaine, et moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné 12 fois leurs fruits et les cannes 24 fois leurs fleurs depuis que je suis au monde. Leur vie semblait attachée à celle des arbres comme celle des hunes et des dryades. Ils ne connaissaient d'autres époques historiques que celle de la vie de leur mère, d'autres chronologies que celle de leur verger et d'autres philosophies que de faire du bien à tout le monde et de se résigner à la volonté de Dieu. Après tout, qu'avaient besoin ces jeunes gens d'être riches et savants à notre manière? Leur besoin et leur ignorance s'ajoutaient encore à leur félicité. Il n'y avait point de jour qu'ils ne se communiquassent quelque secours, quelque lumière. Oui, des lumières. Et quand il s'y serait mêlé quelques erreurs, l'homme pur n'en a point de dangereuses à craindre. Ainsi croissaient ces deux enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur front, aucune intempérance n'avait corrompu leur sang, aucune passion malheureuse n'avait dépravé leur cœur. L'amour, l'innocence, la piété développaient chaque jour la beauté de leur âme en grâces ineffables dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements. Au matin de la vie, ils en avaient toute la fraîcheur. Tels dans le jardin d'Éden parurent nos premiers parents, lorsque, sortant des mains de Dieu, ils se virent, s'approchèrent et conversèrent d'abord comme frères et comme sœurs. Virginie, douce, modeste, confiante comme Ève, et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d'un homme avec la simplicité d'un enfant. Quelquefois seul avec elle, il me l'a mille fois raconté. Il lui disait au retour de ses travaux, « Ah, lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce vallon, tu me parais au milieu de l'auverger comme un bouton de rose. Si tu marches vers la maison de nos mères, la perdrix qui court vers ses petits a un courage moins beau et une démarche moins légère. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver. Quelque chose de toi, que je ne puis dire, reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assieds. Lorsque je t'approche, tu ravis tous mes sens. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux, le chant des Bengalis moins doux que le son de ta voix. Si je ne te touche seulement le bout du doigt, tout mon corps frémit de plaisir. Souviens-toi du jour où nous passâmes à travers les cailloux roulants de la rivière des Trois Mamelles. En arrivant sur ses bords, j'étais déjà bien fatigué. Mais quand je t'ai pris sur mon dos, il me semblait que j'avais des ailes comme un oiseau. Dis-moi, par quel charme tu as pu m'enchanter? Est-ce par ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Je n'oublierai jamais que tu aies marché nu-pied jusqu'à la rivière Noire pour demander la grâce d'une pauvre esclave fugitive. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce raisin de miel, je l'ai pris pour toi au haut d'un rocher. Mais auparavant, repose-toi sur mon sein, et je serai délassé. » Et Virginie lui répondait, « Oh, mon frère, les rayons du soleil au matin, au haut de ces rochers, me donnent moins de joie que ta présence. J'aime bien ma mère, j'aime bien la tienne, mais quand elle t'appelle mon fils, je les aime encore davantage. Les caresses qu'elles te font me sont plus sensibles que celles que j'en reçois. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. Vois nos oiseaux, élevés dans les mêmes nids, ils s'aiment comme nous, ils sont toujours ensemble comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. De même, quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte au haut de la montagne, j'en répète les paroles au fond de ce vallon. Tu m'es cher, surtout depuis le jour où tu voulais te battre pour moi contre le maître de l'esclave. Depuis ce temps-là, je me suis dit bien des fois, « Ah, oh, mon frère a bon cœur. Sans lui, je serais morte d'effroi. Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs. Mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive aucun mal. Pourquoi vas-tu si loin, si haut, me chercher les fruits et les fleurs? N'en avons-nous pas assez dans le jardin? Comme te voilà fatigué, tu es tout en âge. Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues, et elle lui donnait plusieurs baisers. Cependant, depuis quelque temps, Virginie se sentait agitée d'un mal inconnu. Ses beaux yeux bleus se marbraient de noir, son teint jaunissait, une langueur universelle abattait son corps. La sérénité n'était plus sur son front, ni le sourire sur ses lèvres. On la voyait tout à coup gaie, sans joie, et triste, sans chagrin. Elle fuyait ses jeux innocents, ses doux travaux et la société de sa famille bien-aimée. Elle errait, çà et là, dans les lieux les plus solitaires de l'habitation, cherchant partout du repos et ne le trouvant nulle part. Quelquefois, à la vue de Paul, elle allait vers lui en folâtrant, puis tout à coup, près de l'aborder, un embarras subit la saisissait. Un rouge vif colorait ses joues pâles et ses yeux n'osaient plus s'arrêter sur les siens. Paul lui disait « La verdure couvre ces rochers, nos oiseaux chantent quand ils te voient, tout est gai autour de toi, toi seul est triste. » Et il cherchait à la ranimer en l'embrassant, mais elle détournait la tête et fuyait tremblante vers sa mère. L'infortuné se sentait troublé par les caresses de son ami Paul, qui ne comprenait rien à des caprices si nouveaux et si étranges. Un mal n'arrive guère seul. Un de ces étés, qui désolent de temps à autre les temps situés entre les tropiques, vint étendre ici ses ravages. C'était vers la fin de décembre, lorsque le soleil au Capricorne échauffe pendant 3 semaines l'Île-de-France de ses feux verticaux. Le vent du sud-est, qui règne presque toute l'année, n'y soufflait plus. De longs tourbillons de poussière s'élevaient sur les chemins et restaient suspendus en l'air. La terre se fendait de toutes parts, l'herbe était brûlée. Des exhalaisons chaudes sortaient du flanc des montagnes, et la plupart de leurs ruisseaux étaient desséchés. Aucun nuage ne venait du côté de la mer. Seulement pendant le jour, des vapeurs rousses s'élevaient de dessus des plaines, et paraissait au coucher du soleil comme les flammes d'un incendie. La nuit même n'apportait aucun rafraîchissement à l'atmosphère embrasée. L'orbe de la lune, tout rouge, se levait dans un horizon embrumé d'une grandeur démesurée. Les troupeaux abattus sur les flancs des collines, le cou tendu vers le ciel, aspirant l'air, faisait retentir les vallons de tristes mugissements. Le Cafre même qui les conduisait se couchait sur la terre pour y trouver de la fraîcheur, mais partout le sol était brûlant et l'air étouffant retentissait du bourdonnement des insectes qui cherchaient à se désaltérer dans le sang des hommes et des animaux. Dans une de ces nuits ardentes, Virginie sentit redoubler tous les symptômes de son mal. Elle se levait, elle s'asseyait, elle se recouchait, et ne trouvait dans aucune attitude ni le sommeil, ni le repos. Elle s'achemine à la clarté de la lune vers sa fontaine. Elle en aperçoit la source qui, malgré la sécheresse, coulait encore en filets d'argent sur les flancs bruns du rocher. Elle se plonge dans son bassin. D'abord, la fraîcheur ranime ses sens et mille souvenirs agréables se présentent à son esprit. Elle se rappelle que dans son enfance, sa mère et Marguerite s'amusaient à la baigner avec Paul dans ce même lieu. Que Paul ensuite, réservant ce bain pour elle seule, en avait creusé le lit, couvert le fond de sable et semé sur ses bords des herbes aromatiques. Elle entrevoit dans l'eau, sur ses bras nus et sur son sein, les reflets des deux palmiers plantés à la naissance de son frère et à la sienne, qui entrelaçaient au-dessus de sa tête leurs rameaux verts et leurs jeunes cocos. Elle pense à l'amitié de Paul, plus douce que les parfums, plus pure que l'eau des fontaines, plus forte que les palmiers unis, et elle soupire. Elle songe à la nuit, à la solitude, et un feu dévorant la saisit. Aussitôt, elle sort, effrayée de ces dangereux ombrages et de ces eaux plus brûlantes que les soleils de la zone torride. Elle court auprès de sa mère chercher un appui contre elle-même. Plusieurs fois, voulant lui raconter ses peines, elle lui presse les mains dans les siennes. Plusieurs fois, elle fut près de prononcer le nom de Paul, mais son cœur oppressé laissa sa langue sans expression, et posant sa tête sur le sein maternel, elle ne put que l'inonder de ses larmes. Madame de la Tour pénétrait bien la cause du mal de sa fille, mais elle n'osait elle-même lui en parler. Mon enfant, lui disait-elle, adresse-toi à Dieu, qui dispose à son gré de la santé et de la vie. Il t'éprouve aujourd'hui pour te récompenser demain. Songe que nous ne sommes sur la terre que pour exercer la vertu. Cependant, ces chaleurs excessives élevèrent de l'océan des vapeurs qui couvrirent l'île comme un vaste parasol. Les sommets des montagnes les rassemblaient autour d'eux et de longs sillons de feu sortaient de temps en temps de leurs pitons embrumés. Bientôt, des tonnerres affreux firent retentir de leurs éclats les bois, les plaines et les vallons. Des pluies épouvantables, semblables à des cataractes, tombèrent du ciel. Des torrents écumeux se précipitaient le long des flancs de cette montagne. Le fond de ce bassin était devenu une mer. Le plateau où sont assises les cabanes, une petite île, et l'entrée de ce vallon, une écluse, par où sortaient pêle-mêle avec les eaux mugissantes, les terres, les arbres, les rochers. Toute la famille tremblante priait Dieu dans la case de Madame de la Tour, dont le toit craquait horriblement par l'effort des vents. Quoique la porte et les contrevents fussent bien fermés, tous les objets s'y distinguaient à travers les jointures de la charpente, tant les éclairs étaient vifs et fréquents. L'intrépide Paul, suivi de Domingue, allait d'une case à l'autre, malgré la fureur de la tempête, assurant ici une paroi avec un arc-boutant et enfonçant là un pieu. Il ne rentrait que pour consoler la famille par l'espoir prochain du retour du beau temps. En effet, sur le soir, la pluie cessa, le vent alisé du sud-est reprit son cours ordinaire, les nuages orageux furent jetés vers le nord-est, et le soleil couchant parut à l'horizon. Le premier désir de Virginie fut de revoir le lieu de son repos. Paul s'approcha d'elle d'un air timide et lui présenta son bras pour l'aider à marcher. Elle l'accepta en souriant et ils sortirent ensemble de la case. L'air était frais et sonore. Des fumées blanches s'élevaient sur les croupes de la montagne, sillonnées çà et là de l'écume des torrents qui tarissaient de tous côtés. Pour le jardin, il était tout bouleversé par d'affreux ravins. La plupart des arbres fruitiers avaient leurs racines en haut. De grands amas de sable couvraient les lisières des prairies et avaient comblé le bain de Virginie. Cependant, les deux cocotiers étaient debout et bien verdoyants. Mais il n'y avait plus aux environs ni gazon, ni berceau, ni oiseau, excepté quelques bengalis qui, sur la pointe des rochers voisins, déploraient par des chants plaintifs la perte de leurs petits. À la vue de cette désolation, Virginie dit à Paul : Vous aviez apporté ici des oiseaux. L'ouragan les a tués. Vous aviez planté ce jardin. Il est détruit. Tout périt sur la terre. Il n'y a que le ciel qui ne change point. Paul lui répondit : Que ne puis-je vous donner quelque chose du ciel ? Mais je ne possède rien même sur la terre. Virginie reprit en rougissant : Vous avez à vous le portrait de saint Paul. À peine eut-elle parlé qu'il courut le chercher dans la case de sa mère. Ce portrait était une petite miniature représentant l'ermite Paul. Marguerite y avait une grande dévotion. Elle l'avait porté longtemps suspendu à son cou étant fille. Ensuite, devenue mère, elle l'avait mis à celui de son enfant. Il était même arrivé qu'étant enceinte de lui et délaissée de tout le monde, à force de contempler l'image de ce bienheureux solitaire, son fruit en avait contracté quelques ressemblances, ce qui l'avait décidé à lui en faire porter le nom et à lui donner pour patron un saint qui avait passé sa vie loin des hommes qu'il avait abusé puis abandonné. Virginie, en recevant ce petit portrait des mains de Paul, lui dit d'un ton ému : Mon frère, il ne me sera jamais enlevé tant que je vivrai, et je n'oublierai jamais que tu m'as donné la seule chose que tu possèdes au monde. À ce ton d'amitié, à ce retour inespéré de familiarité et de tendresse, Paul voulut l'embrasser. Mais, aussi légère qu'un oiseau, elle lui échappa et le laissa hors de lui, ne concevant rien à une conduite si extraordinaire. Cependant, Marguerite disait à madame de la Tour : Pourquoi ne marions-nous pas nos enfants ? Ils ont l'un pour l'autre une passion extrême dont mon fils ne s'aperçoit pas encore. Lorsque la nature lui aura parlé, en vain, nous veillons sur eux, tout est à craindre. Madame de la Tour lui répondit : Ils sont trop jeunes et trop pauvres. Quel chagrin pour nous si Virginie mettait au monde des enfants malheureux qu'elle n'aurait peut-être pas la force d'élever. Ton noir domingue est bien cassé, Marie est infirme. Moi-même, cher ami, depuis 15 ans, je me sens fort affaibli. On vieillit promptement dans les pays chauds et encore plus vite dans le chagrin. Paul est notre unique espérance. Attendons que l'âge ait formé son tempérament et qu'il puisse nous soutenir par son travail. À présent, tu le sais, nous n'avons guère que le nécessaire de chaque jour. Mais en faisant passer Paul dans l'Inde pour un peu de temps, le commerce lui fournira de quoi acheter quelques esclaves, et à son retour ici, nous le marierons à Virginie, car je crois que personne ne peut rendre ma chère fille aussi heureuse que ton fils Paul. Nous en parlerons à notre voisin. » En effet, ces dames consultèrent, et je fus de leur avis. « Les mères de l'Inde sont belles, leur dis-je. En prenant une saison favorable pour passer d'ici aux Indes, c'est un voyage de 6 semaines au plus, et d'autant de temps pour en revenir. Nous ferons dans notre quartier une pacotille à Paul, car j'ai des voisins qu'il aime beaucoup. Quand nous ne lui donnerons que du coton brut, dont nous ne faisons qu'un usage, faute de moulin, pour l'éplucher, du bois d'ébène, si commun ici qu'il sert au chauffage, et quelques résines qui se perdent dans nos bois, tout cela se vend assez bien aux Indes, et nous est fort inutile ici. »